Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donald Trump suspend les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis. Le président américain espère ainsi protéger son pays du coronavirus. Cela va durer au moins 30 jours. Nous irons à Washington en début de journal.
Emmanuel Macron a lui aussi choisi la déclaration solennelle. Elle est prévue à 20h ce soir. En attendant d'éventuelles mesures, le gouvernement annonce la suspension de la privatisation d'Aéroports de Paris.
La Banque Centrale Européenne doit également proposer des mesures aujourd'hui, jeudi, alors que l'économie flanche un peu plus chaque jour.
Et puis la justice française valide l'extradition aux États-Unis d'un ingénieur iranien. Un casse-tête diplomatique entre Paris et Téhéran, vous l'entendrez.
Enfin ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, annonce un calendrier plus souple pour la deuxième session du contrôle continu au baccalauréat. Précision dans ce journal. Dans un gros quart d'heure, le billet politique. Frédéric Seiss vous donnera ce matin les grands enjeux à surveiller pour les élections municipales. 5 grands enjeux à suivre. L'OMS parle maintenant de pandémie face à la propagation toujours plus grande du coronavirus. Et les États-Unis se barricadent. Changement de ton outre-Atlantique, la peur s'installe. La stupéfaction aussi face à la suspension d'un symbole. La NBA, le championnat de basketball, est reporté à un joueur ayant été testé positif. L'état d'urgence est déclaré dans une douzaine d'États américains, dont la Floride, la Californie, l'état de Washington. Tout cela a poussé Donald Trump à prendre la parole hier et il a ciblé l'Europe, Grégory.
C'est seulement la deuxième fois de son mandat que Donald Trump s'adresse à la nation depuis le bureau ovale. L'allocution dure 10 minutes et le président des États-Unis annonce ses mesures sans précédent.
Pour empêcher que de nouveaux cas pénètrent sur notre territoire, nous allons donc suspendre tous les voyages en provenance d'Europe à destination des États-Unis pour les 30 prochains jours. Cette règle prendra effet ce vendredi à minuit. Ces restrictions seront aménagées en fonction de la situation sur le terrain. Il y aura des exemptions pour les ressortissants américains s'ils sont examinés scrupuleusement et ces restrictions ne s'appliqueront pas non plus au Royaume-Uni.
Quelques minutes plus tard, le département de la sécurité intérieure précise dans un communiqué que les ressortissants américains pourront continuer à voyager entre les deux continents à condition d'être examinés au départ ou à l'arrivée. Les restrictions ne concernent que les personnes et pas les marchandises. Enfin, cette mesure vise les ressortissants étrangers qui ont séjourné dans un pays de l'espace Schengen dans les 14 jours précédant leur arrivée aux États-Unis. Dans son allocution, Donald Trump a parlé de virus étranger dont il faut protéger le peuple américain, mais le coronavirus est déjà présent sur le territoire dans une quarantaine d'États avec près de 1300 cas recensés et une trentaine de morts.
Et à l'image des États-Unis, l'Inde refuse également l'entrée sur son sol des étrangers, quelle que soit leur nationalité cette fois. Le pays suspend jusqu'au 15 avril l'attribution de tous les visas de tourisme. Une quarantaine est également imposée aux ressortissants de Chine, d'Italie, d'Iran, de Corée du Sud, mais également d'Espagne, d'Allemagne et de France. Car en France, en effet, le virus continue de se propager. Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 48 décès. 2280 personnes au moins sont contaminées, soit 500 de plus qu'hier. Les visites sont désormais interdites auprès des personnes plus fragiles, les personnes âgées dans les EHPAD. Et c'est le couple exécutif qui prend maintenant les rênes de la communication face au coronavirus. Ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe va recevoir les présidents des assemblées et des groupes parlementaires, ainsi que les chefs de parti, les présidents d'associations d'élus. Et puis le chef de l'État, Emmanuel Macron, prendra lui la parole ce soir à 20h. Une déclaration solennelle à 3 jours du premier tour des élections municipales. Et dans l'attente de possibles annonces ce soir, le gouvernement a déjà précisé un dossier. La privatisation d'Aéroports de Paris est suspendue. La faute à la mauvaise conjoncture économique et à la très petite forme du secteur aérien. Il faudrait plutôt renoncer totalement à cette privatisation, estiment de leur côté les détracteurs de cette mesure. C'est le cas du député socialiste des Landes, Boris Vallaud.
Ça n'est pas pour nous, à ce stade, une bonne nouvelle. Nous, ce que nous demandons de façon appuyée, continue, résolue, c'est l'abandon pur et simple du projet de privatisation des aéroports de Paris. Que la conjoncture soit défavorable à une privatisation, compte tenu de l'impact sur le secteur du transport de la crise du coronavirus, ça, c'est une évidence pour tout le monde. Mais ce sera demain une mauvaise nouvelle et une mauvaise idée, comme ça l'était il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Parce que Aéroports de Paris, c'est une entreprise stratégique, je crois qu'elle le montre dans la crise. La privatiser, ce serait une mauvaise opération sur le plan économique et financier. Il faut y renoncer. Donc, quand on nous annonce des décisions qui sont conjoncturelles, eh bien nous, on en appelle à des décisions structurelles qui prennent en compte le fait que près d'1,2 million de Françaises et de Français ont demandé à ce qu'il y ait un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris.
1,2 million de signatures ont en effet été recueillies pour un référendum sur le sujet. Il fallait pour être entendu 4,7 millions de signataires, soit un dixième du corps électoral. La France anticipe donc la crise économique quand l'Italie, au contraire, se protège encore plus en espérant repousser au plus vite le virus. C'est en tout cas la stratégie du président du Conseil italien Giuseppe Conte. Hier soir, il annonçait, en plus de la quarantaine dans tout le pays, la fermeture de tous les commerces, sauf pour l'alimentation et la santé. Rome, face à cette crise, a par ailleurs débloqué 25 milliards d'euros. Londres annonce également un plan de 39 milliards d'euros, 11 milliards de dollars à l'Australie. Les banques centrales s'y mettent, mais qu'en sera-t-il de la Banque Centrale Européenne ? Une réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE est prévue aujourd'hui. Alors que peut-elle faire, Marie Viano ?
Ce qu'il faut éviter en ce moment, c'est la crise de liquidité. Autrement dit, le cas où les banques ne veulent plus prêter à personne parce qu'elles craignent que leurs clients, particuliers, entreprises ou d'autres banques, soient affectés par le coronavirus et ne puissent plus les rembourser. Au contraire, en ce moment, ce qu'il faut, c'est que les banques prêtent encore plus. Pour les y inciter, les banques centrales baissent généralement leurs taux d'intérêt. Le problème de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'elle soutient déjà une économie européenne languissante et que son taux est à zéro. Difficile pour elle de le baisser, comme l'ont fait la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre. En revanche, la BCE a développé, sous la présidence de Mario Draghi, des tas d'outils non conventionnels qu'elle peut actionner aujourd'hui. Elle peut notamment prévoir d'augmenter ses rachats de titres de dette italienne, ce qui aiderait le pays à financer son plan d'urgence. Elle peut acheter encore plus de dettes d'entreprise sur les marchés financiers. Elle le fait déjà, mais cela pourra inciter les banques à leur prêter, même si elles sont en difficulté. La BCE peut même indirectement soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises en accordant des facilités de crédit aux banques de façon conditionnelle et ciblée. La difficulté pour la BCE, ce sera finalement surtout d'en faire assez, mais pas trop, pour ne pas inquiéter encore plus et surtout pour se laisser des marges d'action au cas où la situation économique et financière se dégraderait dans les semaines qui viennent.
Entre crise économique et changement de modèle face au coronavirus, c'est justement le thème des matins de France Culture, reprise de la discussion après ce journal. Mais d'ici là, penchons-nous sur l'une des conséquences de ce virus, sur la façon de travailler en France. Ce type de crise incite à télétravailler, à travailler à distance depuis son domicile. Une étude publiée ce matin le prouve, en revenant sur les grèves de ces derniers mois, Adrien Bossard.
En janvier-février, 34% des salariés du secteur privé disent avoir eu recours au télétravail au moins 7 jours par mois. Jusqu'à un habitant sur deux, même en Ile-de-France, c'est 4 points de plus qu'en temps normal du fait des grèves. Un niveau jamais atteint, selon Anne-Sophie Godon, directrice de l'innovation chez Malakoff Humanis et co-auteur de l'étude.
Aujourd'hui, 60% des salariés du secteur privé nous disent que leur emploi n'est pas télétravaillable. Donc quand on passe en fait de 30 à 34%, c'est presque 4 salariés sur 10 qui ne bénéficiaient pas du télétravail historiquement, qui l'ont utilisé pendant les grèves.
Ce qu'elle appelle le potentiel, c'est 10% de la population qui peuvent être convertis au télétravail assez facilement. Le travail à domicile peut donc potentiellement concerner jusqu'à 40% de Français. C'est la limite, car c'est infaisable pour 60% des salariés, les artisans commerçants ou les employés du BTP par exemple. Et puis ce que montre l'étude, c'est que les nouveaux télétravailleurs des mois de janvier et février ne renouvelleront pas forcément l'expérience. Ils tirent plus d'inconvénients que de bénéfices. Problèmes techniques, difficultés à faire la distinction vie professionnelle, vie personnelle. Et ça se ressent chez les entreprises, sur Anne-Sophie Godon.
Elles ont moins vu les bénéfices en termes d'autonomie, d'efficacité, en termes de productivité. Voilà. Donc c'est vraiment le déficit d'anticipation et d'organisation qui fait que les bénéfices ne sont pas au rendez-vous au même niveau que celles qu'ils pratiquent de manière régulière.
Le télétravail est alors uniquement vu comme un cas de force majeure, notamment en ce moment avec le coronavirus.
Et pour d'autres explications, décryptage, découverte à propos de ce qui est désormais une pandémie, retrouvez chaque jour le podcast de France Culture intitulé « Radiographie du coronavirus ». La justice française approuve l'extradition vers les États-Unis d'un ingénieur iranien détenu à la prison de la Santé. Le FBI l'accuse d'avoir tenté de faire entrer en Iran du matériel technologique en violation des sanctions américaines contre la République islamique. La Cour de cassation française a donné son accord pour son extradition. Encore faut-il que le Premier ministre le valide. Et ce n'est pas chose facile car il y a d'autres enjeux diplomatiques, Christian Chesneau.
C'est une affaire qui empoisonne notre relation avec la France, reconnaît en privé un diplomate iranien. Jalal Rohlanejad, ingénieur spécialiste de la fibre optique, est soupçonné par le FBI d'avoir voulu faire entrer des systèmes industriels sensibles en Iran en violation des sanctions imposées par Washington. Arrêté sur demande de l'administration américaine le 2 février 2019 à Nice, lors d'un voyage professionnel, il est aujourd'hui au centre d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Téhéran. La justice française vient de valider son extradition vers les États-Unis, mais celle-ci ne peut intervenir sans la signature du Premier ministre Édouard Philippe. Une signature qui n'est pas évidente parce qu'à Téhéran, on a fait comprendre que la libération des deux chercheurs français détenus à la prison d'Evin, Roland Marshall et Fariba Adelra, dépendait aussi de celle de Jalal Rohlanejad. De la bonne volonté d'un côté peut entraîner de la bonne volonté de l'autre, assure notre source diplomatique iranienne qui rappelle que des échanges de prisonniers ont déjà eu lieu sous l'administration Trump. Une façon de suggérer que la balle est désormais dans le camp de la France qui peut encore s'opposer à l'extradition de l'ingénieur iranien.
En Irak, deux membres de l'armée américaine et un membre de l'armée britannique ont été tués hier. 18 roquettes au total ont frappé une base militaire dans le nord de Bagdad. Washington et Londres demandent à ce que les responsables rendent des comptes.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal dans les matins. L'inspection générale de l'éducation nationale critique les épreuves de contrôle continu du nouveau baccalauréat.
Oui, dans une note publiée cette semaine, elle parle même de pression de l'évaluation, de variantes selon les établissements. De nombreux lycées avaient en effet été bloqués, une quinzaine d'entre eux n'ont pas pu faire passer ces épreuves de contrôle continu. Le ministre de l'Éducation nationale consent donc ce matin à des aménagements. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Alors quel changement donc pour la prochaine session fin avril?
Alors pour parer à l'urgence, le ministre de l'Éducation propose donc d'ouvrir la banque de données des sujets à l'ensemble des professeurs et des élèves. Jean-Michel Blanquer veut ainsi que les lycéens puissent mieux se préparer avec par exemple l'aide de leurs parents, avec un risque tout de même celui du bachotage en apprenant les réponses par cœur. Pour donner plus de flexibilité aux établissements dans l'organisation des E3C, il envisage également d'élargir la période durant laquelle les candidats devront passer les épreuves, c'est-à-dire du 20 avril à la fin juin, ce qui permettra aussi d'avoir plus de temps pour terminer les programmes et de partir en vacances avec ses notes. Alors, si les syndicats saluent des avancées, ils demandent plus de moyens pour éviter un bac à deux vitesses en fonction des établissements. Sophie Vénétité, la secrétaire générale adjointe du SNES.
Puisqu'on l'a vu, il y a des sacrifices qui sont faits dans les établissements quand il faut choisir de maintenir une option au détriment d'une autre, quand on choisit de créer un groupe de mathématiques complémentaires mais qu'on ferme un groupe de théâtre. Ça, pour nous, ce n'est pas acceptable. Il faut redonner les moyens à tous les établissements d'avoir l'offre de formation la plus diversifiée possible.
Enfin, Jean-Michel Blanquer, qui veut jouer la carte de l'apaisement, promet une période de concertation avec les enseignants jusqu'à la fin de l'année scolaire, avec sans doute d'autres évolutions à venir, mais là, d'ici la rentrée.
Merci beaucoup Hakim Kasmi pour ces précisions ce matin. Cette annonce également du laboratoire Boiron faite hier, il supprime un quart de ses effectifs en France, soit 646 postes. Plus d'un tiers de ces sites vont fermer. Le leader mondial de l'homéopathie met cette décision sur le compte du déremboursement de l'homéopathie décidé il y a quelques semaines par le gouvernement. Des logements ou un parc? Voici l'un des thèmes de campagne en ce moment pour les élections municipales. Le premier tour aura lieu dimanche. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Catherine, dans de nombreuses villes, il existe des tensions entre les candidats qui annoncent des programmes de construction et ceux qui militent pour une ville plus verte.
À Lyon, autour de la gare de la Part-Dieu, à Lille, à propos de la friche de l'ancienne gare Saint-Sauveur, mais aussi à Montpellier ou Strasbourg, la question divise dans de nombreuses grandes villes. Faut-il arrêter de construire des logements ou des bureaux? Dans cette campagne, un bilan de mandat en forme de valorisation des constructions réalisées ne semble guère dans l'air du temps. Un maire bâtisseur est avant tout vu comme un maire bétonneur. Ce n'est pas nouveau, mais la demande des habitants a évolué, souligne Sandrine Barrero de l'Institut Paris Région, l'agence d'urbanisme d'Île-de-France.
Aujourd'hui, les habitants, ils cherchent pas simplement à se loger ou à bouger ou accéder à un emploi ou à accéder à un équipement sportif, l'école, etc. Pouvoir accéder à un espace de nature dans une très très grande proximité, c'est devenu véritablement pour eux un enjeu de vie au quotidien. au même titre que loger ou transporter.
À la fois par nécessité environnementale et parce qu'ils préfèrent avoir de la verdure qu'une nouvelle tour en bas de chez eux, de nombreux habitants s'opposent désormais aux nouvelles constructions.
Sauf que Catherine, il faut toujours loger les gens, si bien que les enjeux sont parfois contradictoires.
Oui, les élus locaux se trouvent ainsi pris en tension entre trois termes, la nécessité de produire des logements, l'injonction désormais nationale à ne plus étaler les villes, c'est-à-dire à ne plus construire sur de nouveaux espaces, sauf à en renaturer d'autres en contrepartie, et enfin la densification urbaine qui, elle, se heurte à l'opposition des habitants. Daniel Béard, géographe et professeur à l'École d'urbanisme de Paris.
On ne peut pas produire de logements sans densifier et sans étaler, quoi. C'est l'un ou l'autre. La porte de sortie, elle est extrêmement complexe, c'est du sur-mesure. Et donc, ça va devenir un grand objet de l'action des agglomérations dans le monde aquitien.
C'est à de nouvelles formes de densification de la ville, articulant nature et bâti, et à l'aménagement de territoires plus larges que devront s'atteler les futurs élus.
Merci Catherine Pétillon. Je précise que nous pouvons retrouver dès ce matin votre dossier sur les constructions sur notre site franceculture.fr. Je vous signale enfin le décès de Didier Besas, comédien, metteur en scène français que nous avions d'ailleurs reçu à plusieurs reprises sur France Culture, cofondateur du théâtre de l'Aquarium, ancien directeur du théâtre La Commune à Aubervilliers. Il avait su allier le théâtre politique et le théâtre poétique. Voilà ce que dit la maire d'Aubervilliers ce matin. Didier Besas avait 74 ans. De la pluie et du gris sont prévus ce matin dans le ciel de l'Aquitaine jusqu'au Grand Est. À l'opposé, en revanche, sur le sud-est, le soleil sera encore bien présent. Comptez dans la matinée 10 degrés à Lille, 12 à Paris, 14 degrés à Bordeaux et 19 à Perpignan.
Merci Clara Lecoq-Réal.